Alors c'est vrai que je suis encore obligé de me représenter aujourd'hui quand même, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. En fait, c'est la première fois que je viens dans cette église, donc je connaissais peu de monde, plus haut, comme ça. Ah oui, voilà, il faut faire des signes si tu vois, mais il m'arrivera souvent de baisser comme ça. Voilà, il faut me rappeler. Donc je m'appelle Hervé Guillois, j'habite Carcassonne. Carcassonne, on roule d'habitude là-bas. Hein. Et c'est le sud-ouest de la France, c'est près de l'Espagne, c'est près de la Méditerranée aussi, on est à 30 minutes, on est à 1 h 15 de la montagne, j'ai fait la publicité. La ville est le pays idéal, les montagnes, les collines, c'est très sauvage, comme les gens, mais ils sont très sauvages. Voilà, et puis il y a une très belle cité, faut pas l'oublier, hein, du 11e siècle, et cette cité attire tellement de touristes, alors je dis que ça doit être la plus belle ville au monde. J'ai rectifié un peu mon tir. J'ai dit, voilà. Mais Nîmes est très jolie, vous avez un pont superbe, je ne le connaissais pas. Et puis ce matin, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de belles choses à Nîmes à visiter, et c'est vrai, en France, nous avons de belles régions. Et je suis marié, mon épouse s'appelle Chantal, j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, j'ai 4 petits-enfants, je suis un grand-père et j'ai 3 garçons dans les petits-enfants et une fille. Et là, la fille, la dernière, c'est de mon fils, elle a 5 mois. Alors c'est tout récent, c'est tellement fragile et tout petit, ces enfants-là. On a peur de les casser en morceaux, enfin en tout cas moi. Et voilà, donc j'habite Carcassonne, mais j'ai reçu de Dieu un ministère particulier qui est un ministère prophétique. Et ce ministère me fait tourner dans beaucoup de nations où Dieu manifeste sa gloire, où je vois vraiment l'œuvre du royaume de Dieu avancer dans ces régions. Je cite quelques pays, l'Afrique noire, alors j'essaie de faire par ordre, le Sénégal, le Mali, j'y vais déjà là-bas depuis 91, ça fait déjà beaucoup de temps, le Mali, le Burundi, le Rwanda, après Madagascar aussi, j'ai entendu parler de Madagascar tout à l'heure, j'allais du côté de Tamatave. J'ai beaucoup travaillé du côté dans la brousse complètement, avec des médecins, tout un système d'organisation. Et j'aime beaucoup travailler avec des médecins qui voyagent et qui vont dans les villages en moto parce que c'est très difficile autrement. Et en général, les médecins de là-bas n'y vont pas parce que c'est très dangereux, les routes. Il pleut beaucoup. Voilà. Et puis, après, j'ai fait l'île Maurice pour être dans ce coin-là aussi. La Réunion, j'ai vu juste passer, mais l'année prochaine, j'y vais à la Réunion et de nouveau à l'île Maurice, en fin de cette année plutôt. Et puis après, j'ai fait l'Écosse, j'ai fait un petit peu l'Angleterre, Oxford, je suis allé au Canada, je suis allé en Belgique, j'ai redescendu la France, après l'Italie. Aussi, voilà, j'en oublie Israël, j'ai oublié de l'autre côté, et puis en revenant vers Israël, aussi les pays arabes, Abu Dhabi, dans les Émirats arabes, le Liban, voilà, beaucoup de pays, beaucoup d'endroits, j'en ai certainement oublié, mais en fait, j'ai jamais tant voyagé depuis que je sers Dieu. Avant, je voyageais un peu dans mon ancien métier, c'était régisseur d'un conservatoire de musique dans le nord de la France, chez les Ch'tis, en Picardie, là-haut. Voilà, là où vous connaissez peut-être, je ne sais pas s'ils connaissent tous, non, peut-être pas, Valérie, voilà, qui était chez vous, qui est des églises NFI. Et puis, c'est elle qui m'a amené à Jésus-Christ, hein, c'est formidable, hein, une élève, c'est extra. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais pas, là, je m'embrouille. Voilà, vous me connaissez déjà un peu. Je suis un homme tout à fait normal, avec des défauts et des qualités. Ne me regardez pas comme quelqu'un de parfait. Parce que si j'étais parfait, vous ne me supporteriez pas. Et je vois que personne n'est ébranlé par moi. Ça veut dire que je suis comme vous. Si j'étais sans péché, je serais déjà parti, hein. Comme Élie. Mais non, voilà. Bon, alors en tout cas, je suis un homme normal. Et ce que j'aime, c'est beaucoup Jésus. Et j'ai envie de partager sa passion, la passion de ce que je l'aime. Je n'ai pas d'épuisement de ce côté-là. Et j'ai tellement envie de voir le royaume de Dieu avancer. Et de voir sa puissance se manifester. Et je disais aussi dans toutes les églises que je visite, et je n'avais pas été là jusqu'au bout, ça me revient, je visite aussi bien des églises charismatiques que des églises non charismatiques. Des réformés comme des gens méthodistes, des gens libres, les libristes, un petit peu beaucoup de dénominations où Dieu est en train d'agir actuellement et des gens sont remplis de l'esprit et ils vont dépasser les charismatiques. Je veux les faire rager un petit peu. Vous allez perdre du terrain parce qu'ils ont la connaissance et en même temps ils reçoivent l'esprit. Je vous dis, c'est des bombes. Après, voilà, ils amènent des gens à Jésus, mais c'est fou, hein, la dernière fois, les jeunes, comment ils ont fait. Et Dieu manifeste sa puissance. Moi, je crois que il ne faut pas regarder sur cette petite sphère dans laquelle nous sommes, mais on doit élargir l'espace de notre tente et voir comme Dieu voit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement sur la terre? Et il manifeste sa puissance partout, partout. On est dans un temps exceptionnel où j'ai jamais vu autant de guérisons et de conversions qu'à l'heure actuelle. Dans des endroits impossibles humainement qu'on n'oserait même pas mettre les pieds. Je vais bientôt aller au Népal. Et pour vous dire, il y a une soif d'ouvrir des églises là-bas. Alors je vais aller pour enseigner. Et Dieu est en train de gagner le monde entier. Quand il reviendra, Jésus, tout le monde aura entendu parler. Là, je suis content de pouvoir le dire. De plus en plus, il faut que tout le monde entende. À qui veut l'entendre, même dans les brousses, dans les endroits désertiques, Dieu manifeste sa puissance et il vient. Juste pour vous donner une image, quand j'étais à Madagascar, j'étais sur le canal d'Absalon, on appelle ça. C'est un canal qui vient de l'intérieur, qui va vers la mer. Et puis, c'est là tous les endroits des pêcheurs. Et puis, ils ont tellement pêché qu'il n'y a plus de poissons dans le lac, dans le canal qui passe là. Alors, il faut les réapprendre à réappoissonner et ainsi de suite. Mais je suis rentré un jour, on a été une année sans y aller. Personne n'a pu visiter une église qu'on avait ouverte en brousse. Et puis, ils se sont débrouillés tout seuls. Mais d'un seul coup, comme il y avait tellement, tellement de tempêtes, on ne pouvait pas passer le canal parce que le vent soufflait tellement fort que les bateaux se retourneraient et les gens meurent. Mais eux, ils ont traversé avec leur petite pirogue pour aller de l'autre côté du canal. Ils sont rentrés dans un village et dans ce village, ils ont commencé à évangéliser. Et l'année d'après, j'arrive. Ils étaient tellement fiers de ce qu'ils avaient fait. Alors, ils ont dit, il faut que tu viennes voir l'église qu'on a ouverte là-bas. Tout seul qu'ils ont fait ça. Alors, on est allé en bateau, et là, ça allait bien sur le canal. Et puis, on est arrivé dans cet endroit. Quand je suis descendu, c'était la fête. Il n'y avait jamais eu aucun blanc qui avait mis le pied dans leur village. Alors, ils en ont vu quand ils sont allés dans la capitale, à Tamatave. Mais là, dans leur village, aucun blanc n'était venu. J'étais le premier blanc qui mettait le pied dans leur village. Pour vous dire, c'est vraiment la brousse. C'est très loin, dans les roseaux. Quand on va dans les villages, vous êtes obligés, on va en bateau jusqu'à la fin du canal, puis on traverse tout à pied pendant quelques kilomètres, et on marche dans l'eau, il y a des crocodiles, des serpents, il y a tout ça, il faut vraiment... Alors, moi, il portait mon bagage parce qu'il se dit, Hervé va se casser la figure, ils avaient raison, je ne suis pas très le pied marin, mais eux, ils courent, ils avancent, et moi, je n'arrivais pas à suivre, ils avancent tellement vite, et on marche tout le temps dans la boue, c'est ça. Et dans cet endroit, quand on est arrivé, ce village, écoutez, c'était extraordinaire. On s'est assis, et ça faisait même pas un an qu'ils connaissaient Dieu. Ils ont chanté des chants, ils étaient heureux des chants de louange à Dieu que les autres leur avaient appris. Et c'était extraordinaire, heureux. Et ils me touchaient tous parce qu'ils n'avaient pas pu toucher de blanc dans le village. Et pour eux, c'était une telle fête. Alors quand c'est comme ça, on tue le poulet. Et oui, c'est la fête. Un poulet pour 40 personnes, vous imaginez, coupé en petits bouts comme ça, mélangé avec le riz rouge et beaucoup d'eau, c'est la sauce, l'eau. Et moi, ils ont couru pour me donner une cuillère parce que je ne savais pas manger avec les mains. Et puis, du sel, il n'y en a pas beaucoup, donc ils sont allés m'en chercher, c'est incroyable. Tellement ils étaient honorés. Et moi, j'étais honoré de pouvoir partager le poulet, qui est un repas de luxe là-bas. Donc voilà. Dans d'autres endroits, dans Madagascar, on tue aussi le zébu. Alors là, c'est la grande fête. Hein. C'est pas très cher, les zébus, mais quand il y a une grande fête, on leur paye un zébu, ils le tuent, et là, ils mangent en grillade. Alors là, c'est tout le monde qui vient. C'est une fois par an. Voilà. Pour vous dire, le royaume de Dieu avance de plus en plus. Voilà. Ça, c'était juste pour parler un peu. On va lire dans Matthieu, chapitre 7, verset 28... Je vais mettre ma Bible à l'endroit. versets 28 et 29. Matthieu 7, 28 et 29. Il est dit, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. » Car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Je vais vous dire une chose, nos églises aujourd'hui ressemblent à Israël au temps du ministère de Jésus. On entend de grandes vérités tous les dimanches, vous êtes d'accord avec moi, et même en semaine. Mais en fait, qu'adviendrait-il si nous vivions dans l'obéissance de la parole de Dieu? C'est une grande question. Rendez-vous compte, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a lu, Dieu nous demande de le vivre. Et si on obéissait à tout ce qui nous est dit, le monde entier serait renversé. Et tout le monde serait touché par le royaume de Dieu. Vrai ou faux? Puisque c'est la vérité, la parole de Dieu. Et les scribes, ils parlaient beaucoup, 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 beaucoup de la Torah, mais en fait, ils ne vivaient rien de ce qu'ils disaient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai. Et la différence entre Jésus et les scribes, Jésus exigeait l'action immédiate de ce qu'il parlait. Et finalement, vous savez quoi? On l'a crucifié, non pour ce qu'il avait dit, mais pour ce qu'il avait fait. Parce qu'il parlait comme les scribes. Alors, on ne l'a pas crucifié parce qu'il disait des vérités, mais parce qu'il vivait les vérités. Et je crois qu'aujourd'hui, si on est persécuté, c'est parce qu'on vit les choses de la parole, mais jamais pour autre chose. Moi, quand j'étais au Rwanda, au Burundi, on m'a mis une arme sur le ventre et on a voulu me tuer. J'étais à la période 94, quand il y a eu ces émeutes où ils se sont entretués. J'étais là-bas et ça s'est déclenché à ces moments-là. Et nous sommes des grands responsables des Français. En tout cas, à cette époque, le président était vraiment responsable. J'en ai vu les preuves. Donc maintenant, c'est mis à la lumière. Donc voilà, je ne peux pas vous raconter toute cette histoire, mais c'est horrible. Et je crois que, oui, Dieu voulait, les hommes veulent nous tuer parce qu'on vit la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui dérange. C'est pas d'écouter, c'est pas de prêcher, ça les dérange pas. Mais c'est que vous viviez la parole de Dieu. Il ne se contentait pas de parler d'amour, mais il aimait. Je vais vous raconter une histoire. J'ai vu qu'hier vous aimez bien les histoires. C'est des choses que j'ai vécues que je vous raconte, je vous assure. Donc, c'est facile de dire « je t'aime, bisous, bisous ». Ça, on se fait ça, les Français savent très bien faire ça. Mais aimer, c'est autre chose. Alors moi, je prêchais l'amour. Aimer son prochain comme Dieu nous aime, il faut ressembler à Jésus. Je dis oui, tout ça, c'est facile à dire. Mais un jour, justement, j'étais au Rwanda. Puis, je prêchais, c'était avant toute cette guerre. Hein. Et puis, j'étais là-bas et j'étais le matin et j'ai dit, c'est un pays qui était très christianisé, vous savez, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens partout, enfin, entre guillemets, enfin, en tout cas, des chrétiens quand même. Voilà, ils proclamaient Jésus, ils chantaient Jésus, et voilà. Et puis, j'ai dit, Seigneur, écoute, donne-moi ce que tu veux que je prêche à tous ces gens. Quand vous allez dans ces pays, c'est des foules entières qui viennent, énormes. Puis les pasteurs du coin, ils viennent tous, parce qu'il y a un orateur qui arrive. Et ça, c'est un grand rassemblement. Et puis je dis, Seigneur, écoute, donne-moi quelque chose, ils ont tellement déjà entendu de choses, quelque chose qui va toucher leur cœur. Et Jésus me dit, je veux que tu leur parles sur Zachée. J'écoute, Seigneur, ils connaissent tous cette histoire ici. Ils ont tous été évangélisés de partout. Je dis, non, Seigneur, dis-moi autre chose. Et j'entends Dieu qui me parle et qui me dit, je te montrerai ton Zachée. Alors, je dis, bon, très bien, Seigneur, je travaille Zachée comme il faut. Je dis, j'ai apporté quelque chose quand même d'à peu près correct pour tous ces gens. Et puis, j'arrive à la salle, et vous voyez, c'est une salle avec des canisses tout autour, et le toit au-dessus, c'est en tôle. Mais entre le toit et les canisses, c'est-à-dire les bambous, il y a un espace. En fait, c'est la clim naturelle. C'est le vent qui passe comme ça, voilà. Et l'estrade était haute pour arriver au niveau où il y a l'espace, où il y a l'air, on voit au travers. Juste pour vous situer comment c'était. C'est pour donner la clim pour les orateurs, c'est important. Pas quoi. Il fait chaud là-bas, vraiment. Et puis, j'aime la chaleur. Et puis, j'arrive, et tout de suite, quand je rentre dans la salle, il y avait déjà plein de gens, je regarde partout où il est mon zinché. Mais où il est? Tout le monde peut être zinché. Puis personne ne peut être zinché. Qui est-ce? Je dis, Seigneur, je ne sais pas du tout. Puis c'est mon tour, après la louange, je montais sur l'estrade, je monte avec l'orateur, avec l'interprète. Et puis, voilà, il me présente. Et puis, d'un seul coup, c'est à moi. Je dis, et je vais vous parler. Et je cherchais partout Zaché. Je dis, mais où il est, Seigneur? Et je me retourne dans l'espace de vide et je vois un arbre derrière. Et sur l'arbre, il y avait un homme habillé de sacs de jute. Oh, je dis, c'est mon Zaché. Alors j'écris, Zaché, descends de ton arbre, Jésus t'appelle. Mais le gars interprète et il fait le tour. Et il vient. Je dis, ça alors, Seigneur. Alors vous imaginez, quand il y a des signes comme ça, alors là, vous avez une audace quand vous prêchez, vous percez et tout. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Voilà, vous êtes tellement convaincu que tout le monde se convertit à la fin. C'est obligatoire, hein, il n'y a pas le choix. Et alors, je prêchais. Et puis le gars est venu, ah oui c'était ça, le gars arrive, et quand il arrive, tout le monde recule. Je dis, oulala, il ne l'aime pas beaucoup ici. Alors moi je l'appelle, viens Zaché. Je dis, viens devant, t'as la place, c'est mon Zaché, alors j'ai dit, t'as la place d'honneur avec les pasteurs. Quand il arrive, tous les pasteurs reculent de deux rangs. Je dis, oulala, qu'est-ce qu'il a pu faire cet homme? Mais quand vous êtes haut sur l'estrade, vous posez plein de questions, mais vous ne voyez pas les détails. Mais moi, je voyais juste les gens se reculer. Je dis, oh là là. Donc, il y avait lui tout seul devant, et les pasteurs étaient deux rangs. Il y avait deux rangs de libre, et tout le monde était plein partout, sauf là où il était. Alors, je prêche Zaché, et lui, convaincu, il se lève pour donner sa vie à Jésus. Toujours avec son habit de jute, le sac, vous savez, les sacs de jute qu'on faisait les pommes de terre avant, ou le charbon, et... Bon, et puis, il se lève. Voilà, moi j'étais content, mais après, il y a plein de gens qui se lèvent. Donc, il se donne à Jésus. Je devais avoir une conviction quand j'ai prêché. En tout cas, c'était extraordinaire. Ou alors l'action de l'esprit, quand même. Oui, un petit peu. Et puis, voilà, le gars est là. Alors, il se lève. Et après, je dis, ben voilà, ceux qui sont levés, vous vous avancez. Mais les gens, ils restaient loin derrière les autres. Et lui, il s'avançait devant. Alors, je descends, puis je dis, je vais prier pour lui. Puis après, je prierai pour les autres, parce qu'ils sont tellement loin, ils vont bien arriver après. Quand j'arrive, c'est moi qui recule de deux rangs. Je dis, mais oh, cet homme, il était rempli de poux. Je ne sais pas si vous avez vu des poux. Ça vous saute de partout. Et il sentait mauvais. Malheur, il sentait mauvais. Je crois qu'il s'est jamais lavé de sa vie. Il a vu, oh là là, il était noir, mais noir sur tous les sens. Hein. Je suis sûr que vous faisiez ça, c'était tout noir. Mais incroyable, il sentait mauvais. Alors j'arrive, et moi je ne pouvais pas m'approcher. Et j'entends Jésus qui me dit, aime-le comme je t'aime. Non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur. Et là, Dieu me faisait une belle leçon, je vous assure. Alors, impossible. Le traducteur, il était loin derrière moi encore. Et il interprétait fort. Bon, et puis, je dis, Seigneur, je ne peux pas. Il dit, Hervé, si tu m'aimes, tu dois aimer aussi ton prochain. Je dis, écoute, Seigneur, je ne peux pas être comme toi, je ne suis pas toi, toi débrouille-toi, moi je ne peux pas. Il dit, c'est impossible. Je me voyais avec plein de poux, je me voyais avec, et que tout le monde allait me rejeter. Vraiment, c'était terrible. Je dis, c'était terrible ça, je ne pourrais plus m'en débarrasser. Et Jésus dit, Hervé, alors tu ne m'aimes pas. Oh, je dis, Seigneur, si je t'aime, alors aime-le comme je t'aime. Alors, j'ai obéi à Dieu. J'ai pris l'homme dans mes bras. Parce que j'ai dit, il m'a dit, comment tu m'aimes? Je dis, un grand bras. Et je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré fort. Mais je fermais très fort les yeux pour ne pas voir les poux. Mais l'odeur me montait dans les moustaches, je vous assure, c'est terrible, terrible. Et puis, je le serrais et j'ai dit, Jésus, donne-lui ton amour. Il a tellement besoin d'amour, cet homme. Cet homme s'est mis à pleurer. Ma chemise était noyée de larmes. Mais il pleurait tellement. Personne ne l'a jamais aimé sa vie. On lui donna à manger avec la gamelle, comme ça. Rien d'autre. Il était rejeté de tout le monde. Et là, je n'osais plus le lâcher. Parce que j'avais peur, quand je vais le lâcher, de voir que j'ai plein de poux. Alors je n'osais pas. Puis là, je me dis, quand même, tout le monde attendait. Je dis, et les autres? De toute façon, ils n'ont plus avoir envie que je prie pour eux. Mais, alors... Quand je l'ai saisi dans les bras, tout le monde a fait Oh! Très fort dans la salle, vous imaginez. Et puis, j'ouvre un œil et puis je dis, oh là, il faut que j'arrête, faut que je le laisse quand même. À force de le serrer, je dis, je vais l'étrangler, je vais l'étouffer. Je le lâche tout doucement comme ça et je me regarde tout de suite. J'avais aucun pouls sur moi, mais aucun, je vous assure. J'avais juste l'odeur dans les moustaches qui m'est restée longtemps, mais aucun pouls. Et cet homme s'est donné à Jésus-Christ, il est devenu serviteur de Dieu. C'est extraordinaire. Et cet homme, après que je l'ai laissé, il avait tout, lui toujours les pouls sur lui. Il avait toujours autant, il sentait toujours aussi mauvais. Et j'ai dit simplement aux femmes, et là elles l'ont fait quand même, allez le laver. Alors elles l'ont astiqué, elles l'ont frotté, elles ont passé la douche, elles ont fait les produits, enfin tout a été fait pour plus qu'il ait rien. Et après cet homme a été serviteur de Dieu. Donc vous voyez, aimer, Jésus quand il disait qu'il aime les gens, il ne faisait pas semblant. Il ne dit pas aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, puis c'est bien. Non, non, il démontrait quelque chose. Je crois que c'est ça qui étonnait et qui frappait les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils étaient frappés, étonnés. Vous avez vu dans la Bible, beaucoup de fois on parle de ce mot. Ils étaient frappés, étonnés de ce qui se passait. Dieu, quand il disait Jésus qu'il aimait, il aimait vraiment. On apprend comme ça avec Jésus. Enfin, pour moi, il me fait apprendre toujours par des trucs très pratiques. À chaque fois, il faut que je puisse vivre la chose. C'est de ma faute, hein. J'ai toujours demandé à Dieu, je veux vivre ce que tu faisais. Alors il dit, tu vas voir. Donc après, il ne proclamait pas seulement la puissance de Dieu pour les guérir les gens, mais il les guérissait. Je crois que qu'aujourd'hui, on a besoin de rentrer dans ce domaine de la guérison bien plus que jamais. Jésus, quand il priait pour les malades, ils étaient guéris. Je vous raconte juste une histoire, encore de Madagascar. Allez. J'étais parti dans la brousse. Alors, avant de partir, la nuit, je ne dormais pas. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur, demain? Et puis, on doit partir en 4x4. Vous savez, il y avait des trous profonds, tellement il y a d'eau. Il n'y a pas autre chose que le 4x4 pour passer. C'est impossible. Et puis, je prie, et j'entends Dieu qui me dit, je vais guérir les sourds. Bon, je dis quand même, le matin, avant de partir, on partage normalement avec toute l'équipe et on prie. Je dis, je ne vais pas leur dire si jamais ce n'était pas vrai. Je dis, c'est peut-être mon idée. Puis, on prie et je dis rien. On part en 4x4 et le long de la route, Dieu me dit, Hervé, dis-leur ce que je viens de te dire. Oh, je dis, Seigneur. Et je leur parle. Donc, je parle comme ça avec Jésus. Hein, c'est un aller-retour. J'aime bien. Hein, je fais des discours avec lui. Je ne suis pas toujours d'accord avec Jésus. Hein. Voilà, bon, des fois. Hein, et je dis, non, il n'y a pas question. Mais là, il dit ça. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais le dire. Alors, je partage avec les autres. Je dis, voilà, Jésus, il m'a dit qu'il allait guérir des malades. Il va guérir des sourds. Et les gens, aucun, même pas de réaction. Je dis, bon, ça va. Peut-être ils n'ont pas entendu, c'est bien. Puis, arrivé là, on prêche. Et c'est pas moi qui dois prêcher, on fait prêcher quelqu'un d'autre. Alors, le gars, il prêche la parole. C'était super ce qu'il a prêché. Puis, après, ils disent, ah, mais Hervé, tu nous as dit que Jésus guérirait les sourds. Allez, fais l'appel. Ils y sont gonflés quand même. Et ils m'ont laissé tout seul comme ça. Alors moi, j'avance, le traducteur est en train d'expliquer ce que je veux dire. Je dis, est-ce qu'il y a des sourds? Mais les sourds, ils n'entendent pas. Puis, je vois les autres qui poussent certains. Comme ça. En fait, c'était ceux qui savaient qu'ils étaient sourds. J'ai jamais vu autant de sourds de ma vie d'un seul coup. Et pourtant, je vous assure, on ne fait pas de publicité là-bas. Hein. C'est comme Dieu qui avertit. Comment? J'en sais rien. Il est venu des gens de plein de villages de brousse qui étaient sourds. Pourquoi ils sont sourds? Parce qu'ils n'ont jamais eu de soins pour les oreilles et les choses qui ont été infectées les ont rendus sourds. Alors, il y avait quelques sourds de naissance, mais la plupart, c'est des sourds à cause d'infections dans l'oreille. Alors, j'étais là-bas, puis il y avait des médecins avec moi aussi. J'aime bien quand il y a des médecins, ils constatent tout de suite après, c'est super. Et puis, là, je prie pour la première personne, donc il y en a plein qui s'avancent. Je dis, Ephrata, ouvre-toi. C'est très biblique, hein, alors. Ouvre-toi. Et d'un seul coup, la personne a fait, waouh! Je dis, ça alors? Et je dis, elle est guérie. Et les autres, ils disent, oh, elle était peut-être pas sourde, ils me font. Je dis, c'est pas vrai. Et je dis, ils sont pas pour m'encourager, vous savez, les frères, ils nous encouragent pas trop des fois. voilà, ils n'y croient pas trop, en tout cas. Et j'ai dit, bon, ben voilà, parce que j'ai fait pour que, et elle entendait bien, mais j'avais pas fait le test avant. Après, je dis, oh, je ne vais pas me faire avoir deux fois. L'autre personne, je vais faire les tests avant. Puis je dis, oh, médecin, viens avec moi, et puis on va faire les tests. Je dis, je veux des témoins. Et puis, premier, alors j'ai fait tourner de l'autre sens, puis je fais ça, aucune réaction, enfin on fait des choses. Et puis le médecin, je ne sais plus ce qu'il a fait, bref. Et les gens, ils n'entendaient rien. Alors j'ai fait tourner de l'autre sens, puis j'ai dit encore, et j'ai prié. J'ai jamais vu autant de sourdes guéries. Jamais vu autant de sourdes guéries. Tous, il n'y a qu'une seule fille qui n'a pas été guérie. Je n'ai pas compris pourquoi. Tous ont été guéris. Tous. Le lendemain, on retourne dans le même endroit. Alors, de nouveau, j'entends Dieu qui dit, je vais guérir les aveugles. Je dis, oh non, quand même. Bizarre. Bon. Le lendemain, cette fois, je dis, et dans l'équipe de prière, je dis, ah, Jésus va guérir. La veille, il avait fait. Alors, j'ai dit, là, j'étais fort. Il dit, il va guérir les aveugles. Il dit, oh, on verra. Je dis, ben, ça ne les a pas donné beaucoup de foi. Je dis, bon. Et puis, on arrive dans le lieu encore de nouveau. Et là, ce n'est pas encore moi qui prêche. Je devais prêcher à chaque fois. Puis là, c'est deux fois que je n'ai pas prêché. Je dis, bon, ils ont décidé autrement, mais ils ne m'avaient pas dit. Alors, le gars, il prêche l'évangile. C'est un évangéliste. C'est un gars qui travaille à Air France, mais il est évangéliste aussi. Donc, il a prêché. Puis, après, c'est à mon tour. Il me dit, t'as dit qu'il allait guérir les aveugles. Alors, demande s'il y a des gens qui voient pas, des malvoyants. Et puis alors, je fais appel, là ils entendent, c'est pas un problème. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes aux yeux? Ah là là, incroyable le nombre. C'était plus les mêmes gens de la veille, c'était des autres. Ils venaient des villages aussi, et c'est des gens qui avaient des problèmes aux yeux. On n'avait rien prévenu. Ils se sont avancés. Et là, j'ai prié pour le premier. Cet homme, il avait une soixantaine d'années. Et quand il a dit, je vois presque pas, il était professeur, vous savez. Il dit, c'est terrible, je peux plus. Il dit, je vois pas clair. Il dit, ça m'est difficile, je peux pas lire la Bible. Et lui, parle en français. Alors, je dis, bon. Et j'ai dit, quel âge vous avez? Alors, il me dit son âge. Oh, je lui dis, c'est normal, à votre âge, la vue baisse. Bon. Et d'un seul coup, j'entends Dieu qui me dit, Hervé, ça te regarde? Oh, je dis, Seigneur, pardon. Et je dis, pardon devant tout le monde. Je dis, oh, pardon, Seigneur. C'est pas juste ce que j'ai dit. Alors, je mets mes mains sur ses yeux. J'ai dit, maintenant, vois. L'homme, il dit, je vois. Alors, on lui prend une Bible. C'est facile à faire des tests. Puis, on lui met loin, comme d'ici à au bout. C'est même déjà impossible. Et il lit couramment. Je dis, ça alors? Mieux que moi. Et puis, après, on va lui faire lire de près. Alors on met la Bible tout près, et là il lisait couramment. Je dis ça alors. J'ai dit, et moi Seigneur, je suis obligé de mettre des lunettes, avant j'avais 10-10, pourquoi lui, puis pas moi? Ça c'est entre Dieu et moi. Et on discute, hein. Mais voilà, Dieu a guéri. Dieu, il ne parlait pas seulement de guérison, il guérissait. Je ne dis pas que j'ai vécu 100% des guérisons partout, hein. Mais comprenez, Dieu voulait m'apprendre, me dire, voilà, moi quand je parle, je le fais. Alors Hervé, fais-le. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à vivre ça. Il ne se limitait pas à énoncer des théories sur le pardon, mais il pardonnait réellement. Ce n'est pas facile que de pardonner, je vous assure. Pardonner à nos ennemis. C'est facile à dire, je te pardonne. Tout le monde fait ça. Mais en réalité, pardonner, c'est complètement oublié. Quand Jésus, il pardonne nos péchés, il a déjà tout effacé. Et il veut qu'on fasse comme lui. Et c'est difficile. Et des fois, beaucoup de gens sont bloqués par des situations à cause du manque de pardon. Par exemple, une fois, encore une histoire, ça va, je suis dans les temps. J'étais au Sénégal, il y a un long moment, hein, et là aussi, quand vous prêchez l'évangile, vous avez beaucoup de gens de tous les endroits qui viennent. Parce qu'on prie pour les malades, et les gens n'ont pas de médecin, on a dit tout à l'heure, ça coûte très cher, et c'est pareil. Au Sénégal, il faut tout payer, les gens n'ont pas de moyens, donc c'est difficile. Et une femme arrive, la première qui s'avance, elle dit, j'ai un ulcère à l'estomac. Et j'entends Jésus qui me dit, ne prie pas pour elle. Oh. Ça vous est jamais arrivé un truc comme ça? Ça, c'est la honte devant tout le monde. Hein. Bon, je dis, non, Dieu veut pas. Elle n'était pas contente, elle commençait à monter. Puis je prie pour la deuxième. Une autre personne guérit, guérit, et elle revient à chaque fois. Elle dit, vous allez prier pour moi quand même. Et Dieu me dit, ne prie pas pour elle. Puis à la fin, il ne restait plus qu'elle. Elle était vraiment persévérée, voilà. Et elle arrive devant, elle dit, vous allez quand même prier pour moi. Devant tout le monde, elle criait ça. Je dis, Seigneur, fais quelque chose, je t'en supplie, de quoi j'ai l'air, moi? Et Dieu me dit, demande-lui juste comment ça va avec son mari. Oh. Je dis, comment ça va avec votre mari? Et là, oh, celui-là, c'est un pourri, il est horrible, il me tape tous les jours, regardez comment je suis marqué, il boit, c'est terrible, non. Je dis, qu'est-ce qu'il est dit dans notre Père? Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, alors il faut que tu le vives, fais-le, et tu seras guéri. Elle dit, non, il n'en est pas question, vous ne vivez pas avec lui, non, moi je ne peux pas. J'ai dit, ton mari, il est chrétien? Non. Et toi, tu es chrétienne? Ah oui. Et je dis, justement, tu dois vivre ça. C'est pas facile que de pardonner, n'est-ce pas? Et à la fin, elle dit, aidez-moi, je vous en supplie, je veux être guérie, j'ai tellement mal. Elle avait envoyé des mouchoirs de toutes sortes à plein d'Américains de partout pour qu'ils prient dessus et elle n'a jamais été guérie. Je suis le seul qui lui dit, faut que tu pardonnes à son mari. Alors là, j'étais le plus terrible et le plus méchant de tous les hommes. Et puis au moment où elle l'a fait avec moi, écoutez, c'est terrible, son visage se tordait tellement c'était dur pour elle, ça se voyait physiquement. Et quand elle a pardonné, l'esprit est descendu sur elle, elle est tombée, c'est pas obligé de tomber, hein, je vous assure, mais la puissance de l'esprit était là, et j'ai comme pris dans son estomac son ulcère, j'ai tiré, et j'ai senti que c'était arraché, c'était très spirituel. Mais j'ai fait le geste, et c'est ça qu'elle s'est écroulée après, et elle ne bougeait plus. Je dis, si tu l'as tuée, Seigneur, de quoi je vais avoir l'air? Elle est morte, c'est fini, elle bougeait plus, elle est tombée. Tout son poids par terre, c'est terrible, ça fait clac. Et là-bas, ça ne les dérange pas trop, tout ça. Mais nous, on met des protections, hein, des coussins, mais là, il n'y en a pas. Et après, cette femme, d'un seul coup, elle revient à elle, et elle tape sur le sol. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Et elle dit, je suis guérie, je n'ai plus de mal. Elle dit, puis après elle dit, j'ai pardonné à mon mari. Et c'était la plus grande victoire de sa vie. Elle a pardonné, et ça, elle a pris conscience que c'était ça qui la tenait emprisonnée dans l'intérieur. C'est facile de pardonner, hein. Des théories sur le pardon, on en a beaucoup. Mais Dieu veut des actes, et c'est ce qu'il veut au mieux de nous. Voilà pourquoi la foule était frappée de sa doctrine. Ils étaient frappés parce que Dieu agissait. La vie dont les paroles, les actes, les idées, le caractère, les pensées, l'action, la foi, l'obéissance ne feront qu'un et nous étonnera. Dieu veut que vous étonniez le monde par la puissance que vous allez vivre. Toutes ces choses, Dieu veut vous utiliser tout entier, dans votre être tout entier. Et vous savez, on va faire encore un petit peu de grec, c'est pour le taquiner un peu. Voilà. Je disais, le mot frapper et étonner, ils reviennent souvent dans les évangiles. Et ça décrit un peu la réaction des gens face à la vie et au message de Jésus. Et le mot grec signifie être transporté hors de soi, hors de nous-mêmes. C'est la traduction qui dit cela. Le Seigneur transportait littéralement les gens hors d'eux-mêmes. Et c'est ce que Dieu veut pour ce monde, que les gens soient transportés hors d'eux-mêmes par ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vont voir. Je crois que Dieu veut ça, hors de nos retenues, hors de nos œillères, hors de tout ce qui nous empêche de notre religion, pour nous faire rentrer dans cette vie abondante avec lui. Hors de nos retenues. Vous savez, je vous raconte une dernière histoire encore. J'étais dans une ville, ou une église charismatique, mais un peu fatigué, quoi. Et puis, ben voilà, ils se retrouvaient tous entre chrétiens tout le temps. En fait, ça existe beaucoup. Puis, les gens se regardaient toujours et ils vivaient toujours leur petit culte tranquille, bien gentil, un moment de louange, un moment... C'est super, les annonces, tout. Enfin, bref, tout était là. Puis, d'un seul coup, voilà une jeune fille pendant le culte, une gothique qui arrive. Vous avez déjà vu les gothiques? C'est des gens tout en noir. Et avec des piercings, des clous de partout, aux bottes, aux ceintures, les grandes. Il y a toutes choses. Hein, c'est... Voilà. Et puis, voilà qu'elle arrive comme ça. Boum, 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 boum. Boum, elle s'assit. Tout le monde. Le regard sur elle. Quel est cet étranger qui est venu au milieu de nous? Ça commençait à faire des chocs. Puis, d'un seul coup, j'ai une parole pour elle. Cette fille, bouleversée, dure à raconter pourquoi elle est devenue comme ça et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Dure révéler les problèmes qu'elle avait eus de blessures par rapport à sa famille. Cette fille s'est levée, elle a donné sa vie à Jésus. Elle était bouleversée. Elle pleurait. Elle était frappée de la puissance de Dieu. La parole a pénétré les profondeurs de son cœur et comme il est dit, comme une épée à double tranchant, a séparé toutes les choses du bien et du mal. La lumière a été dans son cœur. Puis, cette fille, elle vient devant. Je prie pour elle. C'était formidable. Elle vit une délivrance. Mais alors, il y en avait un paquet de démons en elle. Elle avait fait des choses, après elle m'a raconté tout ça, des trucs aux morts, des messes noires, des sacrifices. Oh là là, elle dit, je ne peux même pas vous dire tout ce que... Je n'ai pas le droit de vous raconter, c'était les débuts. Donc, et puis, cette fille, après, j'entends Dieu qui me dit, prie pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Je regarde les gens, je dis, oh là, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Et puis, je prie pour elle. Elle est remplie de l'Esprit. Mais alors, remplie, elle parle en langue, elle était vraiment remplie. Une fille complètement bouleversée. Alors, ça fait drôle parce qu'elle avait toujours les habits et toujours la tenue. Ça, c'était le samedi. Le dimanche, j'ai dit, elle va peut-être pas revenir après la secousse qu'elle a vécue. Peut-être dans 2-3 jours. J'avais dit au pasteur, j'ai dit, vous penseriez à lui écrire, aller la voir, quoi. J'ai dit, il faut pas la laisser toute seule. Et puis, le dimanche matin, elle arrive. Alors, métamorphosée. Plus la même tenue. La fille qui regardait en face, elle avait juste les cheveux toujours noirs. Elle n'a pas eu le temps de faire des rinçages de cheveux, mais elle était, voilà, belle, réjouissante. Et je vais la voir, je lui dis, tu as bien dormi? Elle me dit, non. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Ah, Dieu m'a parlé toute la nuit. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui t'a raconté, Dieu? Et elle me montre, elle dit, j'ai tout copié. Et en fait, elle ne connaissait rien à la Bible. Dieu lui a révélé les versets de la Bible qu'elle a copiés. Elle n'avait pas la Bible, elle n'avait rien. En prose, je ne sais pas, vous savez comment on fait poésie, là, les choses bien. Elle a copié ça, on voyait bien que ce n'était pas de la Bible, c'était elle qui a reçu, et elle copiait tout ça. Et quand je regardais, je dis, mais c'est extraordinaire. Et je dis, t'as eu tout ça, t'as vraiment entendu beaucoup toute la nuit, hein. Elle n'a pas dormi, en fait, tout le temps. Et puis, je vais voir, elle me dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Oh, ben, je dis, écoute, il faut voir le responsable de l'église, et puis montre-lui. Moi, je n'avais pas à prendre de décision. Alors le responsable, il prend le papier, il regarde, il dit « Ah !» Il était complètement étonné de voir ce qui s'était passé. Il dit « Il faut que tu le témoignes. » Tout de suite, elle a commencé à parler. L'onction de Dieu est venue sur toute l'église. Complètement changée. La puissance Dieu, la veille, la délivre, elle se donne, il la délivre, elle remplit de l'esprit, et le lendemain, elle devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. N'attendez plus, c'est tout de suite. Moi, quand je vois des gens, c'est tout de suite dans la rue. Si Dieu me montre qu'il faut, il faut aller jusqu'au bout. Avec des Arabes, c'est super. Moi, j'aime. Oh, qu'est-ce que j'aime prier avec eux. Ils aiment qu'on prie pour eux. C'est vrai, hein. Et alors, dans la rue, j'ai tellement vécu de choses si fortes avec des Arabes. Ils aiment, ils n'ont pas l'amour dans le monde musulman. Ils ne connaissent pas, c'est la loi. Mais quand vous leur parlez d'amour et que vous leur dites, vous voulez que je prie pour vous, ils disent tous oui. Enfin, moi, j'ai jamais eu un refus. Et puis, je prie pour eux, et puis Dieu les visite, et ils ont des révélations après. Les anges, ils viennent les voir, c'est formidable. Oui, Dieu veut que les gens soient frappés, étonnés, et ça, c'est avec des gens normaux comme nous. Voilà, portés hors de nos retenues, nous devons vivre en Christ en nous donnant à lui de telle façon que les autres soient étonnés de ce que nous sommes devenus et de ce que l'on fait. Si vous pensiez à la puissance, je vais dire toujours, que vous avez reçue en vous, cette dynamique, cette puissance qui peut retourner la terre et renverser les murailles, renverser les montagnes. Dieu veut le faire. Je crois que le critère qui nous permettra de savoir dans quelle mesure nous les étonnons, ça va être en voyant l'empressement avec lequel ils vont vouloir connaître le secret, en tout cas, de notre véritable bonheur, celui avec qui nous vivons. Et ils nous poseront des questions. Et Dieu les attire. Je ne sais pas si vous avez longtemps qu'on vous a dit « Oh, tu es différent des autres. Qu'est-ce que tu as, toi ?» Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça veut dire que les autres le sentent et le voient. Ça veut dire que nous pouvons aller bien plus loin que juste ça. Ça veut dire que la puissance qui est en nous est là pour toucher les gens. Moi, je prie le Seigneur, c'est une autre prière, d'être comme Pierre. Quand je vais marcher avec le soleil, bon, cette année, il n'y en a pas trop là, hein, mais l'ombre de Pierre guérissait les malades. Moi, je dis oui, c'est ça. Je veux que cette puissance puisse se manifester pour que les gens croient que Jésus est réellement le Seigneur. Donc voilà. Et une autre chose. Un chrétien, vous savez, et vous ne penserez plus qu'à cela dans mon histoire, devrait ressembler à un point d'interrogation revêtu de l'onction qui va inciter les gens à demander « Mais comment ils sont devenus des êtres aussi étonnants ?» Soyez des points d'interrogation revêtus de l'onction. Et si vous devenez ça, waouh, qui tu es ? Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi, viens, on veut parler ensemble. Les gens n'ont qu'une envie, c'est d'entendre. Aujourd'hui, la misère est tellement devenue grande dans notre propre pays. Tellement de gens malheureux. Et vous, vous avez la solution, Jésus. Et quand les gens vont voir, quand vous, vous êtes différent des autres, ils vont avoir qu'une envie, c'est de connaître celui qui est avec vous. Et ils vont vouloir le partager ensemble. Donc je crois que Dieu veut nous apprendre à le laisser faire, à être sensible, à l'écoute de ce qu'il a à nous dire pour avoir du résultat au top du top. Dieu nous veut l'excellence. Celui qui est en nous, on le chante. C'est le plus beau, le merveilleux, celui qui est le roi de gloire, celui qui tient tout entre ses mains, celui qui règne sur la terre comme dans les cieux. C'est lui qui est le prince. C'est lui notre roi qu'on veut suivre. C'est lui le Tout-Puissant. En fait, on a beaucoup de paroles comme ça. Mais Dieu veut maintenant que tu les vives. Et c'est ça. Dieu veut que tu les vives. Dieu veut qu'on rentre, pas dans le faire, mais dans ce qu'il a prévu d'avance pour nous. Connaître qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut. Partez tout à l'heure et vous direz, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu as prévu? Qui tu vas me faire rencontrer? Ouais, lundi, c'est le travail, dur, dur, le lundi. Mais qui je vais rencontrer? Quelle est la personne à qui tu voudras que je lui parle de toi? C'est formidable, hein? Peut-être le patron? Ouais, c'est super quand c'est comme ça, hein? C'est déjà arrivé des choses comme ça. Peut-être à votre mère, ici, de la ville de Nîmes ou de Marguerite. Non, c'est la même. En tout cas, c'est pas les mêmes. C'est peut-être à Marguerite, alors, ou à Nîmes, ou ailleurs. Dieu veut vous utiliser. Il faut vous préparer à cela. Je crois que partout où vous allez être, Dieu veut bénir au travers de vous. Faire des instruments de bénédiction pour beaucoup. Vous savez, le même esprit qui est en moi, c'est le même qui est en vous. Et il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'un. Alors pourquoi vous direz, si à Paris c'est facile à écrire, quelqu'un m'a dit ça tout à l'heure. Mais je dis, non, mais c'est normal. Pour moi, ça ne me paraît pas compliqué. Juste ce pas de dire, voilà, je reconnais qu'il est en moi et avec celui qui est en moi, je peux changer la nation, changer notre vie en France pour que le chômage disparaisse. On a tout entre nos mains, nous, hein, mais on a peur. Hein. Et on pense des fois qu'il faut faire comme les autres, comme des fois dans le monde politique chrétien. Souvent, on essaie de vouloir faire comme les autres politiques. Mais non, il faut juste montrer que Jésus est avec nous. Et puis alors, ça va changer tout. Notre discours va être différent, mais on va voir l'action. Tandis que là, les hommes politiques, tout le monde fait des promesses, mais il n'y en a aucun qui les tient. Ils ne peuvent pas les tenir parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais quand Dieu promet des choses, il le fait. Et vous devez le faire. D'accord? Alors, il faut rentrer dans les gouvernements, il faut rentrer. Parce que moi, je crois que Dieu veut qu'on soit dans tout ça pour changer la face. Si un seul d'entre vous qu'il y a l'Esprit de Dieu se trouve au milieu de ce monde, il change toute la face. Les gens sont repris, ils se posent des questions. Mais à quoi tu penses? Qu'est-ce qui se passe? C'est formidable. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit la lumière au milieu de tout ça, le sel de la terre, pour donner du goût. Oui, Dieu veut qu'on étonne les gens, une vie étonnante. Ce serait le titre de mon message, une vie étonnante. C'est ça que Dieu veut, dans tout notre être. S'il imprègne toutes nos cellules, il va être étonnant pour beaucoup.